Chapitre 7. Dans la seconde quinzaine de janvier, Vladimir et Lilia, après une croisière sur les côtes de Sicile et un court séjour à Paris, toujours incognito, arrivèrent à Pétersbourg. Ils s'installèrent, non dans l'immense et somptueux palais du quai de la cour, mais dans celui que le prince possédait à Tarskoï Selo, ravissante demeure dans le style byzantin, décorée de peintures anciennes, de statues, de précieuses mosaïques, entourée de jardins où les pièces d'eau encadrées de marbre dormaient sous leur couche de glace. Vladimir, sur le désir que lui en avait exprimé le tsar, reprenait le commandement de son régiment. Il allait en outre s'occuper de faire rentrer Lilia dans sa véritable situation sociale. Ivan, l'ex-jardinier de Tchevorik, venait enfin d'être retrouvé à Moscou. Il était infirme, à demi-mort de misère, mais très sain d'esprit. Sur l'ordre du prince, l'intendant-chef s'occupait de le faire venir à Pétersbourg, où, en retour de son témoignage, et comme récompense de l'aide apportée autrefois à Madame Fabien, une vie aisée lui serait assurée pour ses derniers jours. Quant à l'enquête faite sur Ismène, elle n'avait pas encore donné jusqu'ici les résultats attendus. Mais celui que le prince en avait chargé disait être sur une piste intéressante. En attendant, Vladimir renouait les rapports avec le comte Semenkov en l'invitant à venir voir les éditions rares, enfermées dans la bibliothèque de son palais de Pétersbourg. Cette invitation, écrite de la main du prince, fut remise au père de Lilia un soir, comme il se levait de table, le dîner terminé. Tandis qu'il parcourait la carte ivoirée, discrètement timbrée des armoiries de Wittenrath, Ismène se pencha pour lire et s'exclama « Décidément, votre faveur est durable, mon cher. Mira, le prince de Wittenrath, invite ton père à venir voir ses vieux livres demain à 3 heures. » Les yeux de Mira brillèrent. « Vraiment ? Eh bien, tâchez de conserver le plus longtemps possible ces bonnes grâces, mon père. Cela peut vous être utile, et à nous aussi. Rien ne lui serait plus facile que de vous faire obtenir à la cour une sinécure bien payée. » Le comte eut un geste là. « Je ne sais pas solliciter. En outre, j'ai entendu dire que le prince déteste les requêtes de ce genre. » Mais il y a un moyen de s'y prendre. Naturellement, on ne demande pas cela de but en blanc. Il convient de procéder par petites touches, par insinuation, avec flatteries à l'appui. » Et haussant irrespectueusement les épaules, Mira ajouta « Vous n'avez pas l'adresse nécessaire pour cela, et il en faut, j'en conviens, avec un homme comme celui-là. » Son regard s'assombrit subitement. Quittant la salle à manger, elle alla se jeter dans un fauteuil pour ressasser la haine qui ne cessait de la brûler. Elle savait depuis quelques jours que le prince se trouvait à Tsarskoï Selo. Quant à la jeune femme, personne ne l'avait aperçue. Vainement, Mira et sa mère interrogeaient habilement parmi leurs relations. Vainement encore, les deux femmes avaient rôdé tout un après-midi aux alentours du petit palais byzantin, au risque d'exciter la méfiance du gigantesque cosaque, debout près de l'entrée. La belle inconnue restait invisible. Le prince ne l'avait-il donc pas ramenée avec lui? Cependant, il n'avait pas coutume de résider à Tsarskoï à cette époque de l'année. Mira en concluait qu'il y avait installé l'objet de sa faveur. Mais pourquoi le cacher ainsi? Par jalousie? C'était invraisemblable de sa part, car il savait bien n'avoir rien à craindre, à moins qu'il ne la rendît malheureuse. Mais elle n'en avait pas l'air, d'après les observations de Madame Menkin. « Il faudra bien pourtant que j'arrive à savoir, » pensait rageusement Mademoiselle Nadopoulo. « Ah, si j'étais à la place de mon beau-père! Mais impossible de se servir de lui, car il n'y a pas d'homme plus maladroit. » Mira aurait fait passer un désagréable quart d'heure au comte Semenkov si elle avait su qu'il connaissait le portrait de la jeune étrangère et n'en avait dit mot à sa femme ni à elle. Depuis quelques années, dédaigneusement mis de côté par elle, il vivait solitaire parmi les livres qu'il aimait. Comme on ne s'informait jamais de ses occupations, il jugeait inutile d'en parler. Aussi n'avait-il fait que suivre une ligne de conduite habituelle en se taisant sur son entretien avec le prince et sur le portrait de femme qu'il avait si vivement frappé. À l'heure dite, le lendemain, il était introduit dans la bibliothèque du palais du Wittengrass, où le prince l'accueillit avec cordialité. Sur la table, près de laquelle il s'asseyait avec son hôte, Vladimir avait posé bien en évidence une miniature représentant Lilia en toilette de soirée, le cou entouré du fameux collier de perles des princesses de Wittengrass. Elle ne quittait pas d'habitude son bureau à Tsarskoï, mais il l'avait apporté ici aujourd'hui pour la mettre sous les yeux du père de Lilia. Tandis qu'il dissertait sur la découverte récente d'un précieux manuscrit dans un couvent grec, il s'aperçut que le regard de son interlocuteur s'attachait à la miniature, la quittait, y revenait. Au bout d'un moment, voyant le comte visiblement distrait, Vladimir fit observer en souriant « Décidément, Andrei Pavlovitch, cette figure de femme paraît vous intéresser beaucoup. » « Oui, au plus haut point, Altesse, la ressemblance avec la princesse Levska apparaît ici plus frappante encore. Et c'est bizarre, mais quelque chose dans le regard, dans le sourire, me rappelle aussi ma première femme. » Vladimir, dissimulant sa vive satisfaction, dit avec calme « C'est un peu singulier en effet. Peut-être cette jeune femme a-t-elle du sang des Levski dans les veines ?» La défunte comtesse Semenkov possédait-elle la beauté de sa mère, mon cher comte ? Non, pas absolument. Elle n'avait pas, en particulier, cette admirable chevelure dont ma fille, par contre, semblait avoir hérité. Ah oui, l'enfant qui a péri par accident avec sa gouvernante. Mais, au fait, y a-t-il bien eu accident ? Le comte Semenkov regarda son interlocuteur avec étonnement. « De toute évidence, oui. Comment expliquer autrement cette disparition ?»« Un acte criminel ? Oh, je n'ai jamais eu l'idée. Qui donc ? Pourquoi ? Personne n'avait-il intérêt à la mort de l'enfant ?» Vladimir vit tressaillir son beau-père et se troubler son regard sous l'afflux d'une pensée soudaine. Pendant quelques secondes, le comte resta sans parole. Puis il dit avec effort : « Mais non, Altesse, non, personne. » Vladimir n'insista pas. Il lui suffisait, pour le moment, de ce germe de soupçon jeté dans l'esprit du père de sa femme. C'était un très important jalon de planté, comme il le dit un peu plus tard à Lilia, quand il alla la retrouver à Tsarskoï. Cette simple suggestion apparut le frapper très vivement. Il va maintenant réfléchir et, à cette nouvelle lumière, peut-être certains faits s'éclaireront-ils pour lui. J'ai dans l'idée que la situation se dénouera très vite, Lilia. » Ils en avaient hâte tous deux, et lui plus encore qu'elle, car il se rendait mieux compte de la situation fausse qui était celle de Lilia. Elle s'était fait peu sentir à la Lilia Sylvia, où l'incognito laissait au prince plus de liberté. Mais ici, l'existence de la jeune femme se trouvait en marge de la sienne. Celle qui était bien légitimement la princesse de Wittengrass devait se cacher comme une coupable, et si sa présence au palais de Wittengrass était connue, elle ferait l'objet de commentaires injurieux. Or, cette idée semblait insupportable à Vladimir. Lilia, fière et pure comme la fleur dont elle portait le nom, était à ses yeux un être d'exception qu'aucun soupçon ne devait effleurer. La jeune femme, dans sa nouvelle existence, conservait la même simplicité intérieure, la même piété fervente que dans la petite maison forestière. En véritable patricienne, elle s'était vite adaptée aux habitudes d'élégance raffinée, aux somptueux décors des résidences princières. Elle s'émerveillait quand son mari la comblait de tout ce que peut désirer une femme et laissait voir ses admirations ingénues avec cette fraîcheur d'impression qu'il aimait tant chez elle. Mais tout cela comptait peu près de l'amour de Vladimir et de celui qu'elle-même éprouvait à son égard. Les satisfactions du cœur et la pureté de la conscience primaient largement pour elle ce qui, dans une situation semblable, aurait fait la joie et l'orgueil d'autres femmes. Vladimir le savait, car il lisait sans peine dans cette âme sincère dont la confiance ne lui était jamais refusée. Ça n'était pas, d'ailleurs, l'un des moindres motifs de sa fervente estime pour cette jeune femme qui lui révélait des délicatesses morales dont personne jusqu'alors ne lui avait donné lieu de soupçonner l'existence. Tu es trop parfaite pour moi, lui dit-il un jour en riant. Elle secoua la tête en le regardant avec un sourire. Je ne suis pas parfaite du tout. J'ai beaucoup de défauts. Mais tu es très indulgent pour ta Lilia. Et je suis sûre, moi, qu'il n'y a pas de meilleur mari que mon Volodia. De fait, c'était en toute sincérité qu'elle pouvait écrire à Ofnik. Je suis très heureuse. Le prince est tellement bon pour moi. C'est à Dieu que je demande de payer ma dette de reconnaissance à son égard pour tout le bonheur qu'il me donne. » Le vieillard, en lisant cela dans sa petite maison, hochait la tête en marmottant. « Eh bien, tant mieux, tant mieux. Pourvu que cela dure !»